Gilbert Darrel présente Au clair de la plume sur Radio Grand Ciel. Notre chronique littéraire pour vous faire connaître les meilleurs auteurs locaux, Au clair de la plume, que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter en tant que Maître Renard alias Gilbert Darrel, a pour invité du jour l'historien Gérard Leray. Il est l'auteur de 4 ouvrages aux éditions Ella. La plupart sont liés à la Seconde Guerre mondiale dans la région. C'est le cas du tout dernier paru, Les Tondus de nos gens, qui fait écho à votre premier ouvrage, en quelque sorte, La Tondue de Chartres, paru en septembre 2011. Pouvez-vous nous préciser de quoi il s'agit exactement ?
Bonjour Monsieur Darrel. Effectivement, je suis l'auteur au total de 5 ouvrages. Le premier fut publié en 2011 aux éditions Vendémiaire, La Tondue 1944-1947. Et ce mois-ci sort un 5e ouvrage de micro-histoire qui est centré sur l'analyse de 25 photographies originales réalisées le 16 août 1944 sur la place Saint-Paul à Nogent-le-Rotrou. 25 photographies qui relatent une tonte collective de 18 femmes dont l'histoire a oublié jusqu'à l'identité. Et c'était impératif pour moi que de retrouver cette histoire et de la raconter.
Mais comment vous êtes arrivé à vous intéresser précisément à ce sujet, qui est une espèce de détail de l'histoire, comme pourraient dire certains, mais qui est pourtant tellement significatif, justement. Et est-ce que vous avez tiré des leçons personnellement sur l'âme humaine, sur ces phénomènes en temps de guerre et après-guerre, à partir des tondus, que ce soit de Chartres ou de Nogent-le-Rotrou ?
Que oui. Ce phénomène des tondus est un phénomène pratiquement universel, généraliste. Le 16 août 1944, Robert Capa photographie la tondue de Chartres. Ce même jour, quasiment au même moment, 18 femmes sont tondues à Nogent-le-Rotrou, à plus de 50 km de Chartres. Je ne crois pas vraiment au hasard. Je crois par contre que cette tonte des 18 Nogentaises a eu des conséquences très importantes sur la suite des événements dans l'épuration sauvage dans la France entière. Rendez-vous compte que cette tonte a été suivie par des journalistes anglo-saxons, et notamment un journaliste anglais qui a relaté à la BBC le récit de cette tonte des 18 femmes, et par conséquent, on peut parfaitement imaginer que dans toute la France, en passe d'être libérée, on a entendu, on a écouté cette scène terrible, et cela a incité incontestablement, j'en suis persuadé, beaucoup de gens à faire la même chose dans leur village, dans leur canton, dans les quatre coins de la France en passe d'être libérés.
Et on sait qui les a tondus et surtout pourquoi ?
Pour ce qui est des tondus de nos gens, et évidemment l'affaire risque de provoquer des grincements de dents, c'est tout simplement le maquis de Plainville et
résistant.
Son chef qui a orchestré la tonte des 18 femmes. C'est une information compliquée. J'ai beaucoup de respect pour le maquis de Plainville et pour son grand chef héroïque, Gabriel Herbelin. Sauf que Gabriel Herbelin, jusqu'au soir de sa vie, n'a absolument pas été fier de cet acte qui n'est pas un acte de guerre, mais un acte de vengeance. J'essaie bien évidemment de me replacer dans le contexte et de comprendre. Et je vais vous dire une chose qui paraît évidente a posteriori. L'accumulation de l'esprit de vengeance était telle que Herbelin n'a sans doute pas eu d'autre possibilité que de lâcher les soupapes pour permettre effectivement un exutoire collectif afin de limiter les dégâts, les catastrophes, les assassinats potentiels.
Se venger de quoi, Gérard ?
Se venger de la honte, se venger de 4 années d'occupation, de privation, de peur, d'accumulation de haine. Rendez-vous compte que en ce mois d'août, on découvre, après 4 années d'oppression, ce sentiment extraordinaire de la liberté. On est dans la pulsion irrépressible, on est dans la volonté de se venger. Je ne dis pas que tout le monde est dans l'idée de se venger, mais en tout cas, la foule, elle, est vengeresse. Et ce qui m'intéresse par-dessus tout dans ce sujet, c'est la dimension vengeresse de la foule, incontrôlable. Essayez, Monsieur Tarel, de vous mettre contre la foule, vous êtes sûr de perdre à tous les coups.
Je n'en doute pas un instant. Mais ces 18 personnes, ce sont 18 femmes, il n'y a pas d'hommes.
Exactement. Je précise qu'un homme incarcéré à la prison de Nogent-le-Rotrou a été exécuté d'une balle dans la tête. On a tondu les femmes parce que l'on a considéré que c'était des coupables idéales. Une femme est par définition faible. S'en prendre à une femme, c'est aussi réveiller cette fameuse virilité.
On leur reprochait quoi ? De la collaboration horizontale ?
Pour l'essentiel, c'est exactement ça. Ces femmes, pour certaines, ont connu des aventures amoureuses ou intéressées avec des soldats allemands. C'est principalement pour ce fait qu'elles ont été châtiées en place publique.
D'accord. Alors, comment vous avez travaillé sur ces sujets délicats, compliqués, même 60 ans après ? On sait que vous êtes professeur d'histoire au lycée Jean de Beauce et que vous avez des engagements citoyens multiples, mais que vous êtes un homme particulièrement scrupuleux, avec un sens de la justice et de l'injustice très fort. Cela a dû vous demander un travail de documentation, de vérification, d'enquête monstrueux, non ?
Effectivement. Quand on fait de la micro-histoire, on touche quelque chose qui n'est pas forcément connu du commun des mortels. J'avais déjà eu, par rapport à la tondue de Chartres, à peu près 2 ans à presque 3 ans d'enquête personnelle aux quatre coins de l'Europe et même en Amérique du Nord pour approcher effectivement la connaissance précise. C'est compliqué effectivement de taper dans la glace, d'essayer de briser le mur, d'autant plus que le premier obstacle, c'est le mur du silence. Surtout pour des sujets que l'on peut considérer comme potentiellement glauques. Mais à force de ténacité, à force de tirer des ficelles, on parvient toujours, en tout cas au bout de 10 ans d'expérience d'investigations historiques de ce type, je crois pouvoir dire que je me débrouille assez bien pour récupérer des parcelles d'histoire. Je suis en quête perpétuelle de vérité. On m'a souvent reproché d'être, pardonnez-moi d'être vulgaire, d'être un emmerdeur, voire même un révisionniste, ce qui est pour un historien une insulte patentée. Mais cette insulte, moi je l'encaisse, ça fait pas forcément plaisir, mais je l'assume complètement. Parce que l'histoire doit perpétuellement être renouvelée. L'histoire est toujours en recherche de vérité. Nous avons tous, toutes et tous, chacun des vérités. Mais nos vérités et la vérité, ce sont des choses différentes. Alors c'est un travail de fourmi. Il s'agit de témoigner, d'enquêter, d'interroger, de creuser, de faire preuve de pugnacité. Et à force de persévérance, on arrive par gratter et reconstituer le puzzle. C'est ce que je me suis attaché dans mes différents travaux historiques de micro-histoire à propos notamment de sujets biographiques en Eure-et-Loire.
Mais comment vous expliquez que 50, 60 ans après, c'est toujours aussi sensible, enfin c'est presque toujours aussi sensible, que c'est pas de la vieille histoire, que c'est pas enterré, que ça crée encore des polémiques, que ça provoque encore des réactions extrêmement vives et controversées ?
La honte. Je n'ai pas d'autre explication que la honte. Rendez-vous compte, pour la tondue de Chartres, cette photo est connue dans le monde entier, mais vous ne verrez jamais, au grand jamais, des autorités publiques ou politiques chartraines parler de la tondue de Chartres. Parce que Chartres, c'est Jean Moulin, la résistance. Alors que la tondue, c'est effectivement le sujet de la honte. La honte fut sur les femmes en 1944. Aujourd'hui, plus de 70 ans après, presque 3/4 siècle, la honte n'est plus sur les femmes. Elles sont parties, elles sont loin, elles sont mortes. La honte est sur ceux qui ont tondu ou ceux qui disent que la résistance fut glorieuse. Je ne doute pas que la résistance a été glorieuse. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. La résistance a aussi généré des actes indignes.
D'accord. Vous vous êtes aussi intéressé à un personnage plus méconnu et controversé de cette époque, à qui vous rangez justice, le commissaire Porte. Alors qu'on connaît bien Jean Moulin, le commissaire Porte, à part les spécialistes, on ne sait pas qui il était exactement. Et donc, qui était-il ?
Il faudra me réinviter, je peux parler pendant 5 heures sur Charles Porte. Charles Porte est un personnage maudit. Il a été le commissaire de police à Chartres de 1939 à 1943, un authentique résistant, mais aussi confronté de par son double jeu de commissaire de police attaché au régime de Vichy, confronté à l'arrestation de résistants, et 4 d'entre eux ont été fusillés comme otages. Et donc c'est un personnage, encore une fois, binaire, positif parce que résistant, négatif parce qu'accusé d'actes de collaboration. J'ai un attachement sur la dualité des personnalités humaines, quelles qu'elles soient. Nous sommes tous binaires, avec des gammes de gris plus ou moins foncées. Rien n'est jamais positif, rien n'est jamais négatif. Nous avons toujours des parts de beauté et des parts d'ombre.
D'accord. Vous avez écrit également un autre ouvrage lié à la Seconde Guerre mondiale, mais romancé celui-là, L'honneur perdu de Juliette Rassonnier, toujours audition Ella, qui a obtenu le grand prix de la ville de Rambouillet par ailleurs. Je crois que la trame a pour départ une histoire vraie dans la région de Maintenon. Vous pouvez nous la résumer et nous dire pourquoi être passé par la fiction cette fois-ci ?
Cette fois-ci, il me faut 10 heures. En simple, en quelques secondes, monsieur Tarel. Sachez que à la Libération, une veuve de résistant a été informée par un acte de trahison d'un autre résistant. Son mari a été fusillé au Mont-Valérien, et la quête de cette veuve, c'est de voir si celui qu'on accuse, cet autre résistant, est coupable ou non. Ça se termine par un kidnapping et un assassinat. Un procès devant la cour d'assises à Versailles en 1949, des condamnations, deux familles écrabouillées par cette catastrophe. Il reste aujourd'hui un survivant de ce drame, un survivant qui ne m'autorise pas à accéder aux archives qui dorment, aux archives départementales des Yvelines. Et ne pouvant pas accéder immédiatement aux archives, pour attendre, j'ai décidé de m'inspirer de la vraie histoire et de fabriquer un roman.
En une minute, mon petit doigt m'a dit que vous travaillez actuellement sur l'incontournable figure de Jean Moulin. Est-ce que mon petit doigt a raison ? Et en quoi pourriez-vous apporter quelque chose de différent de tous les autres ouvrages qui lui ont déjà été consacrés ?
Je vous confirme qu'effectivement, je travaille sur Jean Moulin, sur une période très précise, de la date du 13 juin 1940, le début de la débâcle, jusqu'au départ définitif de Jean Moulin, le 16 novembre 1940, c'est-à-dire grosso modo 150 jours. J'essaie de reconstituer le quotidien de Jean Moulin pendant 150 jours.
Parfait, merci beaucoup Gérard. Je n'avais pas 10 heures de plus, donc c'est pas mal. Merci, à bientôt.
Ce fut un plaisir. Au revoir.
Au revoir.